Seigneur, on te remercie parce que dans le monde que nous a décrit Philippe ce matin au travers de la lecture qu'il nous a faite, il y a encore des hommes et des femmes qui prennent le temps de s'arrêter, de réfléchir, de penser avec toi, de penser à leur vie, de penser à leur vie les uns avec les autres. Et merci pour ce privilège, Seigneur. Merci pour tout ce que tu peux faire dans ce temps que nous mettons de côté pour toi et pour nous. Merci de nous parler maintenant, de stimuler notre réflexion, notre intelligence spirituelle, de nous aider à comprendre ce dont notre âme a réellement besoin pour que nos vies soient remplies, qu'elles soient comblées par toi et que nous puissions avoir une vie où nous sommes satisfaits par toi et où nous pouvons partager, donner et pas juste courir après quelque chose qu'on ne trouve jamais, Seigneur. Merci de faire de ce moment un moment utile pour nous, Seigneur. Amen. Je suis parti d'un texte de 1 Samuel, puisqu'on est encore dans 1 et 2 Samuel dans nos partages du jeudi soir, qui est assez connu, je pense, mais qui traite un sujet vraiment d'actualité. Les apparences. Il y a un très bon roman et film sur ce sujet-là, si vous aimez, qui n'a rien à voir avec ce qu'on va voir ce matin, mais traite des apparences. Je vous lis le passage, le contexte, c'est il y a eu un premier roi pour Israël, Saül, c'était le plus grand, le plus fort, le plus costaud de toute sa génération. Hein. Il avait été choisi pas que pour ça, mais aussi pour ça. Et puis, il a échoué dans sa tâche. Il avait bien commencé, c'était quelqu'un de bien, hein. Mais il a mal terminé. Et puis le prophète Samuel est envoyé choisir un autre roi. Et on l'envoie dans une famille, une grande famille avec plein de fils, une vraie tribu, rien que la famille. Et puis Samuel arrive là et dit au père de famille, à ses fils, ben, venez avec tous vos fils, on va faire des sacrifices. Et puis il voit arriver la famille, bien sûr, du plus âgé au plus jeune, c'était important à cette époque-là, hein, question d'héritage et toutes ces choses-là. Et le fils aîné, c'est le bel homme. Hein. Grand, costaud, large aux épaules, musclé, le regard bien, les cheveux impeccables, tout, les dents qui font ting, 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 ting quand il sourit. Enfin, hein, voilà, vraiment super. Quoi. On met ensemble Schwarzenegger, Bruce Willis, quand il avait des cheveux, je ne sais plus le nom de la nouvelle génération, hein, tous ces mecs-là ensemble, hein, vous transposez pour les jeunes. Et puis c'était lui. Et Samuel se dit, il remarqua Eliab et se dit, certainement c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique, sa taille imposante. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Boum. Hein, Samuel, et pourtant c'était un prophète, et puis un bon prophète, hein, qui était habitué depuis tout petit à écouter la voix de Dieu, donc c'est pas juste quelqu'un qui passait son temps à s'occuper des apparences, comment il était habillé, s'il avait le dernier smartphone ou pas, non, non. Mais il se fait avoir lui aussi, parce que un roi devrait ressembler à un roi, et un roi, ben, ça doit être grand, costaud, pour sortir à la guerre devant les autres, et puis etc., etc. Et la réponse de Dieu est frappante. Alors on connaît tellement ce verset que peut-être on n'en réalise pas le sens. Hein. Mais je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais je regarde au cœur. Pour comprendre bien ce sujet, il faut revenir en arrière, hein, longtemps dans le temps, avec l'échec de nos premiers parents humains. Et lorsque Adam et Ève ont choisi de vivre sans Dieu, c'est-à-dire de devenir eux-mêmes le centre de leur vie, hein, c'est ça le péché, au lieu d'avoir Dieu et puis il gravite autour, maintenant c'est moi et je gravite autour de moi. Et une des conséquences terribles qui a touché l'humanité, et on en est tous atteints, c'est l'insécurité. Hein. Pour eux, ça s'est traduit, et c'est peut-être une façon imagée de le dire, c'était pas juste physique, hein. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Et puis, ils ont commencé à essayer de s'habiller avec une tenue en feuilles. Très pratique, les feuilles de figuier pour faire des costumes. Il faut espérer que ce n'était pas à l'automne. Cela, c'est craquant. Et puis, au-delà de ce petit détail, ça touche tous les êtres humains. Hein. Quand quelqu'un arrive qui est nouveau, immédiatement, on regarde à quoi il ressemble. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on est tout le temps en train d'essayer de se rassurer. Hein. Et donc, on est tout le temps dans la comparaison. Si quelqu'un arrive, il est très beau, très grand, il a une montre chère, on a vu la voiture sur le parking, c'était une Jaguar, on est impressionné. Hein. S'il a un physique un peu moins avantageux, il a une vieille Fiat avec le coffre qui ne ferme pas, avec des plastiques sur le pare-choc, il a des kilos en trop, il est un peu chauve, on se dit, ouais, c'est moins dangereux. Hein. La compétition est moins dure, c'est plus facile. On est tous comme ça, plus ou moins. Alors il y a des domaines qui ne touchent pas et d'autres qui ne touchent. Pour certains c'est le physique, d'autres c'est l'argent, d'autres c'est la culture, d'autres peu importe. Hein. Mais on est toujours dans la comparaison parce qu'on essaie de se rassurer. Hein. Je suis peut-être pas tout en haut, mais il y en a quand même en dessous de moi aussi. Hein. Je suis pas le plus beau, mais il y en a des plus moches. Je suis pas le plus riche, mais il y en a des plus pauvres. Je suis pas le plus intelligent, mais il y en a des plus bêtes. Hein. Et plus j'arrive à en mettre dessous, plus j'ai l'impression que je grandis. Hein. Vous savez, c'est le drame des gens tout petits qui voudraient couper la tête de tout le monde pour penser être plus grand, quoi. Ça fait pas grandir, mais on est comme ça. Hein. Donc l'insécurité touche tous les êtres humains d'une façon ou d'une autre. Et on a tous nos façons de nous rassurer. Hein. Quand on est enfant, et puis surtout quand on passe à l'adolescence, on crée le personnage qui va nous permettre d'être quelqu'un. Hein. Alors il y a l'intellectuel qui est toujours le premier de la classe, qui réussit toujours. Il y a le petit rigolo qui fait toujours l'imbécile, qui se ridiculise lui-même. Mais au moins, il est quelqu'un parce qu'il fait rigoler. Il y a celui qui, il y a celle qui, etc. Et on crée notre personnage et on vit avec ça. Hein. Et donc pour nous, les apparences sont toutes importantes. Hein. Parce que c'est là-dessus qu'on évalue les autres, c'est là-dessus qu'on s'évalue nous-mêmes. Et donc, tout notre relationnel tourne autour de ça. Et vous comprenez pourquoi c'est tellement difficile d'avoir des relations avec les autres, avec nous-mêmes et avec Dieu, puisqu'en fait, on est tellement touché par cette maladie de la crainte de ne pas avoir la bonne apparence que je parle à quelqu'un, mais j'essaie de cacher qui je suis derrière mes apparences, et celui que je crois voir, ce n'est pas lui, parce qu'il est lui-même caché derrière les apparences. Et puis, c'est dans un sens ou dans un autre. Pour les ados, par exemple, l'apparence devient très importante, mais pour appartenir. Ah, hein. Hier après-midi, j'ai fait du shopping avec ma fille, c'était super. Et puis, on a fait 4 heures de shopping, et on a fait 8 magasins parce qu'elle voulait une casquette plate. Vous savez ce que c'est une casquette plate, hein. Il y en a qui savent ici. Ben, c'est une casquette, mais la visière, elle ne doit pas être arrondie, elle doit être plate. Très important. Donc, on a cherché ensemble une casquette plate. Et c'était très important parce que dans sa classe, la majorité des enfants ont une casquette plate. Alors, ce n'était pas une question de coût parce que ça coûtait 8 francs une casquette plate. Hein. Mais il fallait trouver celle qui ressemble à... Je ne sais pas qui le premier à la classe est arrivé avec une casquette plate. Hein, il l'a mise de travers. Il avait lui-même vu à la télé quelque part, etc. Quoi. Et ben voilà, c'est comme ça. Et puis, ça servirait à rien d'expliquer, de dire, mais tu sais, tu dois pas être comme les autres, ils ont tous des casquettes plates, eh ben, tu vas mettre une casquette ronde pour être original. Non, hein, ça marche pas. Pourquoi ? Parce que derrière la casquette plate, derrière la voiture, la montre dans notre pays, ou la maison, le quartier où on habite, toutes ces choses-là, le point réel, c'est qui va m'aimer ? Et comment, à quoi je dois ressembler pour être aimé? Et puis, ben, si je suis bien, on va m'aimer. Donc, si je suis meilleur que lui, on va m'aimer. Et si je fais partie du troupeau, je vais être accepté. Et les chrétiens, bien sûr, n'échappent pas à cette règle. Ils sont comme les autres. Donc, il y a les apparences acceptables pour les chrétiens et celles qu'ils ne sont pas. Au point qu'une fois en parlant avec un non-croyant de la région du Jura, je parlais de la vallée de Tavannes où il y a beaucoup de chrétiens et surtout une certaine dénomination qu'on ne nommera pas, mais qui s'habillent un peu tous pareil. Et cette personne qui n'était pas croyante me parlait de ce mouvement-là et elle me disait « Ah oui, les copier-coller !» Je dis « Ouh, c'est violent !» Mais c'était pas dit méchamment, hein. les copier-coller, parce qu'ils ont tous les mêmes tenues, que je ne vais pas décrire pour pas que vous sachiez qui c'est. Mais on fait tous pareil. Hein? J'ai dit aucun nom, j'ai cité personne. Mais on fait tous pareil. Il y avait une époque, arrivée le dimanche matin, là, comme vous avez fait, sans avoir une grosse Bible sous le bras, ben vous alliez direct à l'enfer. Hein? Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui l'a, d'ailleurs, on peut le regretter, mais la plupart l'ont dans leur téléphone, c'est pour ça qu'ils l'ont plus sous le bras, quoi, ils l'ont dans la poche. Mais il y a les formes. Hein. Et chaque fois qu'on veut réagir à ça en travaillant sur les apparences, on tombe dans le même piège, parce que les contre-cultures, hein, quelles qu'elles soient, prennent une apparence et puis ils y tiennent autant que ceux qui critiquent dans leur apparence. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, alors moi j'étais un hippie, mais c'était une horreur. J'avais droit qu'à 3 couleurs, parce que le reste, ça faisait pas bien. J'avais droit qu'à une seule coupe de cheveux, c'est-à-dire pas de coupe de cheveux. Et j'étais prisonnier de cette façon de vivre. J'aurais pas pu mettre du bleu clair, parce que le bleu clair, c'est Miné qui mettait ça. Je pouvais pas mettre un blouson en noir comme ça, parce que ça, c'était les discos qui mettaient ça. J'avais ma tunique de Katmandou, avec mon écharpe de Katmandou, et mon pantalon, là, et mes cheveux longs et pas coiffés. Et je pensais être libre, parce que j'étais différent de ceux qui... Hein, et voilà. Et puis, il y avait les punks qui étaient tous contre tout le monde, mais on les reconnaissait quand on les voyait, parce qu'ils s'habillaient tous pareil, etc., etc. Donc, échapper aux apparences en travaillant sur les apparences, c'est impossible. Il n'y a pas d'issue là-dedans. Hein. Et là au milieu, il y a Dieu qui nous dit, vous savez quoi? Vous m'amusez avec vos apparences, vous pouvez jouer avec, mais moi je vois derrière. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux et moi je vois les cœurs. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, a été violent dans ce domaine-là. Je le dis souvent, mais on ne réalise pas parce qu'il y a un décalage culturel énorme, parce que nos traductions sont gentilles, parce qu'on ne vit pas dans le contexte où il a vécu, mais Jésus était choquant au possible, violent même, dans la façon dont il a provoqué les gens, hein, sur les apparences. Par exemple, on a ce passage, c'est dans Marc 12, 41 à 44, pour ceux qui veulent vérifier, c'est intelligent de le faire. Jésus s'assit en face du trône. Il observait ceux qui y mettaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes quand arriva une pauvre veuve qui déposa 2 petites pièces, une somme minime. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Car les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Aujourd'hui, ça nous fait bizarre, parce que si on voyait cette situation, tous on penserait que les riches sont des hypocrites et que le pauvre est un gentil. Hein. Mais dans le contexte culturel de l'époque, c'était pas comme ça. C'était une honte d'être pauvre, c'était une honte d'être en bas, et c'était une gloire d'être riche et de le montrer. C'est toujours comme ça, mais on l'habille parce que ça a l'air orgueilleux. Hein. Et Jésus est là et puis il dit, vous voyez là, celui qui vient de donner 10 000 francs, celui qui vient de faire un chèque de 15 000 francs, celui qui vient de faire un chèque de 50 000 francs, ils n'ont rien donné. Ils en ont 100 fois plus en réserve sur leur compte en banque. Ah oui, ils ont donné. Le chiffre est gros. Elle avait 3 francs pour acheter du pain demain et elle vient de donner 2 francs 80. Il ne reste plus que 20 centimes. Elle doit me faire confiance pour le pain de demain. Elle a donné beaucoup. C'était choquant. Ça, c'était dans le bien. Après, Jésus parle avec les spécialistes de la loi, les gens religieux, mais c'était les autorités civiles aussi, parce qu'il n'y avait pas de société civile. Hein. Les gens qui passaient leur vie à étudier la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Et puis, la façon dont ils parlent d'eux, c'est violent. Hein. Vous pensez que vous êtes juste parce que vous n'avez pas commis d'adultère. Et moi, je vous dis... Chaque fois que vous avez regardé une femme avec une mauvaise pensée, vous en avez commis un. Boum, les apparences. Hein. Parce que ces gens-là se retrouvaient entre eux pour parler des pauvres, sales, pécheurs, pourris. Hein. Oh, lui, il a encore fait, oh, quelle horreur, oh, que Dieu nous garde. Hein. Jésus leur dit, derrière vos apparences, vous êtes... Et puis, il va plus loin dans un texte qui, moi, m'a toujours fait sourire, mais qui est d'une violence terrible. Il leur dit ceci, Matthieu 22, 27, à plusieurs endroits, mais j'en cite un. Hein. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Bon, déjà, c'est pas gentil hein, d'aller dire aux gens responsables, pharisiens hypocrites. Vous êtes comme des tombeaux crépis de blanc, qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a que des ossements de cadavres et pourriture. Vous de même, à l'extérieur, vous l'avez l'air de juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. C'est violent, hein? Surtout que nous, bon, un sépulcre blanchi avec des ossements dedans, on aime bien jouer à Halloween, on se promène avec des cadavres, ça nous fait pas quelque chose, hein? Mais pensez que dans cette culture-là, le but de la vie, c'était de rester pur. Hein. Ces gens-là se levaient le matin et puis il fallait filtrer l'eau pour pas qu'il y ait un moustique, parce que s'il y avait un moustique ou une mouche dedans, elle était morte. Si lui, il avait une fourmi qui avait crevé dedans, c'était pas bon. Si par hasard, il touchait une femme, ils étaient impurs parce que les femmes étaient impures. S'ils croisaient un cochon, ils étaient impurs parce que c'était impur. S'ils ramassaient un serpent, ils étaient impurs parce que là. S'ils croisaient quelqu'un qui avait touché un mort, ils étaient impurs parce que le mort était impur. Et les trois quarts des choses étaient impures. Donc le but de leur vie, c'était pas de vivre, c'était d'essayer de rester propre. Hein. Donc ils étaient là, les précautions, les machins, tous les trucs, les os, les trucs. Là. Et Jésus arrive à ces gens-là, et puis il prend un des trucs les plus impurs, les ossements d'un mort, et il leur dit, de l'extérieur, vous ressemblez à des tombeaux bien blanchis, hein, et dedans, il n'y a que pourriture et ossements. C'est d'une violence incroyable. Hein. On n'a pas d'équivalent dans nos cultures, parce que la notion de pureté a disparu. Si je voulais vous choquer comme Jésus a choqué ces gens-là, il faudrait que je sois très vulgaire et je ne vais pas le faire ce matin. C'est enregistré. Mais c'est vraiment très violent ce qu'il leur dit. Pourquoi il fait ça? Pas parce qu'il n'aime pas ces gens-là, Jésus les aimait autant que les autres. Hein, mais parce qu'il veut qu'ils réalisent qu'ils sont prisonniers de ces apparences. Et puis ça touche tous les niveaux. Je pense à cette dame dans le petit village où je vis qui va tous les jours à la boulangerie du village acheter un pain qu'elle déteste. Mais parce que c'est la boulangerie du village, elle est née dans le village, elle ne peut pas aller l'acheter ailleurs. De temps en temps, elle va en cachette acheter du pain ailleurs et puis celui-là, elle le donne aux chevaux. Mais quand même, au moins 4 fois dans la semaine, elle va là parce qu'elle est née là-dedans et elle continue de l'acheter là. Quand elle me racontait ça, je disais, mais c'est pas possible. Ben si, qu'est-ce que diraient les gens si j'allais acheter mon pain ailleurs? Poids des apparences. Hein. Et ça, c'est une petite chose, mais c'est partout, dans tous les domaines. Et ça vient, et ça écrase nos vies, et personne n'y échappe. Et moi, je vous parle de ça, et je suis pareil, hein, dans certains domaines. Alors, on a tous des domaines où on s'en moque, et puis des domaines où on est très sensible. Hein, à ces choses-là. Mais on y est tous prisonniers dedans. Et y a une chose qui m'a amusé, c'est que y a un personnage connu qui a abordé ce sujet d'une certaine façon il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du discours du pape François à la Curie. Donc la Curie, c'est le haut du panier juste en dessous de lui dans le gouvernement de l'Église catholique. Hein. Et pour Noël, il leur a présenté, ou la nouvelle année, il leur a présenté ses vœux. Et voilà ce qu'il leur a dit. Alors j'ai juste trouvé un résumé parce que c'était très long ce qu'il leur a dit, le discours. Hein. Mais il leur a dit, vous êtes atteints de 15 maladies graves. Donc déjà, il leur dit. Hein. Et là, il y a un journaliste qui a repris juste, qui a mis les 15 points comme ça. Hein. Vous vous croyez immortel, immunisé ou indispensable. Deuxièmement, vous avez la maladie de travailler trop. Vous vous endurcissez spirituellement ou mentalement. Vous planifiez trop. Vous travaillez dans la confusion. Vous êtes, ça c'est la plus violente, vous êtes atteinte d'Alzheimer spirituel. Il a dit ce mot-là. Hein. Vous cédez à la rivalité et à la vantardise. Vous êtes touché par la schizophrénie existentielle. Recourir à une double vie pour combler sa vacuité spirituelle. Vous pratiquez le terrorisme des ragots. C'est une autre maladie. Le carriérisme et l'opportunisme, c'est une autre maladie. L'indifférence aux autres par ruse ou jalousie. Vous avez un visage funéraire, pessimisme, sévérité dans les traits. Vous voulez toujours plus de biens matériels, c'est une autre maladie. Vous formez des cercles fermés qui se veulent plus forts que les autres. Et dernière maladie, la recherche du prestige par la calomnie et la discréditation des autres. C'est violent aussi. Hein bon, d'ailleurs, il n'est pas aimé par tout le monde. Hein et puis, regardez ce qu'il leur a dit. Voilà ce à quoi j'aimerais que la curie romaine ressemble. Il ferait beau songer à la curie romaine comme un modèle réduit de l'Église, c'est-à-dire comme un corps qui cherche sérieusement et quotidiennement à être plus vivant, plus sain, plus harmonieux et plus uni en lui-même et avec le Christ. On peut se le souhaiter pour notre Église aussi. Alors, jusque-là, c'était peut-être un petit peu négatif tout ce que j'ai dit, hein, pour décrire cette maladie de la tyrannie des apparences. Et puis, comme je l'expliquais, lutter contre les apparences en travaillant sur les apparences, on retombe toujours dans le piège. Hein. On a tous entendu parler de ce christianisme où, pour pas être comme le monde qui s'occupe des apparences, alors on doit être moche, on doit pas se maquiller, plus on est laid, plus on est spirituel, plus nos affaires sont sales, moches, et... c'est stupide. Dieu aime la beauté, il aime les belles choses, si on peut les avoir, on les a. C'est juste pas le but de nos vies, mais la question est pas là. Hein. Alors, comment on peut s'en sortir? Comment on peut se libérer de ça, de toujours être comparé, de se sentir inférieur parce qu'on n'a pas les bonnes apparences, ou supérieur parce qu'on les a au maximum, toutes ces choses-là? Mais la seule réponse valable, c'est justement de travailler encore une fois de l'intérieur vers l'extérieur. Si Dieu remplit nos vies, si son amour vient guérir notre insécurité, alors on ne sera jamais guéri totalement à 100% et pour tout le temps sur cette terre, il ne faut pas rêver. Mais on peut quand même se stabiliser, hein. On peut être des malades qui se soignent. Vous savez, souvent je prends cette image en tant que croyant, par rapport au péché, à toutes ces choses-là, on peut vivre comme un diabétique qui prend de l'insuline. Il sera toujours obligé de revenir prendre son insuline tous les jours, de contrôler, de faire attention. Mais il peut vivre normalement s'il suit son traitement. En tant que croyant, on ne va pas devenir sain, parfait, pur, super, sans problème, non. Mais si on suit le traitement que Dieu nous prescrit, on peut vivre pas trop mal, avec des erreurs, avec des chutes, avec des... Hein? Mais ce n'est pas grave, quand on s'aperçoit qu'on a oublié de prendre notre traitement, bon, on le reprend, on fait tous les jours un petit contrôle. Mon sucre est trop haut, il est trop bas. Et on arrive à vivre comme ça. Et pour nous, l'insuline qui vient réguler notre vie, qui fait que je vais être moins sujet à la sécurité, donc à la comparaison et donc aux apparences, c'est le fait d'être enraciné dans l'amour de Dieu. Enraciné dans ce qu'on appelle en termes techniques, mais peut-être ça ne veut pas dire grand-chose pour vous, mais on va en parler au prochain week-end d'église, notre identité en Christ. C'est-à-dire ce que Dieu dit que nous sommes, ce que nous sommes dans sa pensée, ce vers quoi nous devons tendre et ce que nous serons réellement un jour. Quand Dieu pense à nous, parce que la seule raison pour laquelle il nous a acceptés, c'est parce que Christ a payé pour nous. Quand il nous voit, bien sûr qu'il voit notre cœur comme il est, pourri, méchant, tordu, tout ce qu'on veut, mais il a choisi de mettre un filtre entre. Et ce filtre, c'est la vie de son Christ qui est sainte, qui est pure, qui est parfaite. Et donc, quand il nous regarde, évidemment, parce qu'il est omniscient et qu'il est Dieu, il sait qui je suis sans lui. Mais il a fait le choix, parce qu'il peut le faire, de me voir au travers de Christ. Donc, il me voit parfait, pur, saint. Je n'ai pas à faire des efforts pour qu'il me voit comme ça. Je peux travailler à ressembler à ce qu'il dit que je suis. C'est ce qu'on fait sur cette terre, hein, toute notre vie. Mais c'est pas parce que je le ferai qu'il va m'aimer plus, parce que comme il me voit parfait à travers ce filtre de ce que Christ a fait pour nous, il m'aime déjà autant que c'est possible d'aimer quand on aime parfaitement. Et si petit à petit, parce que ça, on peut entendre ça, le comprendre, mais un quart d'heure après, on l'a oublié, on l'entend tous les jours, c'est pas naturel, c'est comme l'insuline, on le produit plus. On a besoin de le recevoir jour après jour, des fois 10 fois dans la journée, un apport extérieur. Mais lorsque, avec le temps, et je dirais la pratique, on s'enracine de plus en plus dans cette réalité, hein, ben, je suis comme je suis, voilà. Mais Dieu m'aime comme ça. quand ça commence à contrôler notre pensée, nos émotions, notre âme, ça devient différent. Les gens que je rencontre, ce n'est plus des gens avec qui je suis en compétition pour savoir où je suis sur l'échelle, mieux, moins bien, aussi bien, pareil. C'est d'autres personnes qui sont elles aussi, comme disent les Canadiens, apeurées à l'idée de ne pas être aimées, et puis qui aimeraient ressembler à quelque chose d'autre pour être aimées, et que Dieu aime inconditionnellement. Ce n'est plus des concurrents, ce n'est pas des gens qui m'en veulent, c'est des gens comme moi, et que Dieu aime comme moi. Ça change tout. Ça change tout dans mes relations avec les autres, ça change tout dans ma relation à moi-même, ça change tout dans ma relation avec Dieu. Et lorsque je vis là-dedans, peu importe les apparences, que je sois comme je suis. Il y en a qui aiment le bleu, il y en a qui aiment le vert, il y en a qui aiment le rouge, les cheveux courts, les cheveux longs, la barbe, pas la barbe, les grosses voitures, les petites, les maisons hautes, les maisons basses. Hey, on s'en moque. Parce que si notre vie est enracinée dans cet amour, eh ben elle aura la forme qu'elle aura, ce n'est pas important. Mais par contre, je ne serai plus sous la tyrannie des apparences. Forcément, je vais vivre dans une culture avec mes goûts qui changent, qui évoluent. Et c'est évidemment parce que j'ai vu telle personne qui s'habillait comme ça, que ça me plaît, que je vais le faire. Mais ce n'est pas mon identité. Ce n'est pas le drame si je ne trouve pas la casquette plate. Si je peux la trouver, je la trouve, je l'achète, je la mets. Mais si je ne la trouve pas, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que Dieu m'aime, même avec ma casquette ronde, même sans casquette, même sans cheveux, même avec mes lunettes, même sans lunettes, même avec mes bêtises. C'est reposant. Et dans ce monde de fous furieux qui nous a été décrit dans le texte qui nous a été lu au début, je me demandais si avec le livre, il fournissait une corde. Parce que c'est... Hein, c'est vrai, hein. C'est tellement vrai, mais on dit, ouh là 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 là, et on fait encore des enfants qui vont vivre dans ce monde-là. Hein, ça donne envie de... Mais heureusement, pour ce monde-là, comme pour celui où ces textes de la Bible ont été écrits, hein, où l'esclavage était là, la violence, la polygamie, il y avait encore plus de morts qu'aujourd'hui, c'était encore plus barbare, étriper quelqu'un ou lui trancher la gorge, c'était tous les jours. C'était pas un monde tendre non plus. Hein. Et les esclaves travaillaient du lever du soleil au coucher du soleil, ils n'avaient pas plus de temps que nous, donc... C'était pas super à l'époque et aujourd'hui c'est compliqué. C'était comme c'était, c'est comme c'est pour nous. Mais la réponse est la même. Plonger nos racines dans ce que Dieu a fait pour nous, dans ce qu'il dit que nous sommes, dans son amour pour nous. Et puis ce que nous allons vivre pour lui, avec lui, va découler de cette chose-là. Et ça va transformer nos vies. Et je reviens à cette... belle citation que j'aime beaucoup, que vous connaissez tous, du Petit Prince. Hein. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'invisible est essentiel. L'essentiel est invisible pour les yeux. Je ne connais plus mes classiques. C'est une vérité biblique, même si la phrase vient d'un homme. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et c'est comme ça aussi qu'on va être différent sans être différent. On ne va pas être différent parce qu'on a une autre couleur de cheveux, une autre façon de s'habiller, une autre voiture. On va être différent parce qu'on n'est plus lié à ces choses-là. On les utilise, super, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui fait que je suis ce que je suis, que j'ai de la valeur, que Dieu m'aime et que je suis en relation avec les autres, avec moi et avec Dieu. Alors Seigneur, on te demande de nous aider à grandir dans ces choses-là, à nous enraciner toujours plus dans cette nouvelle identité que tu nous as donnée, pour être libérés de la tyrannie des apparences, de tout ce poids que tu veux, que le système que nous avons construit nous-mêmes fait peser sur nous. Tout ce poids destructif de comparaison, d'insécurité, qui peut nous amener jusqu'à la maladie, même la maladie mentale, à force de se comparer. Rends-nous libres. Tu nous as dit que la vérité nous libérerait. Et la vérité, c'est que nous sommes ce que nous sommes et que tu nous aimes comme nous sommes, à cause de toi. Et que cette vérité puisse nous libérer pour que nous puissions réellement être transformés comme toi. Te ressembler toujours plus comme on l'a chanté. Pas par nos efforts extérieurs, mais parce que nous nous laissons aimer par toi. Parce que nous prenons le temps de penser, de méditer, de réfléchir avec toi, pour que tu remplisses nos vies. Merci Seigneur pour ces réalités. Amen.